Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le premier podcast intime sur l'argent.
Parfois, je me réveille, je sais pas si les choses se sont passées ou pas, quoi. C'est vraiment des trucs nuls, quoi. C'est genre, je dois envoyer un SMS à telle personne, je dois payer tel fournisseur de bois, enfin... Donc c'est censé être un métier passion, comme on dit, mais... Mais ouais, moi, maintenant, je m'assois dans un resto sur un fauteuil en bois, ça me stresse, quoi.
Au départ, je me suis dit, tiens, une ébéniste. C'est chouette ça, ça nous vend du rêve. Mais si, c'est vrai, avec céramiste et prof de yoga, ça fait quand même partie de ces métiers tellement clichés, mais tellement sympas, qui font fantasmer les cadres en reconversion, un peu manuel, mais poétique, un peu artisan, mais au contact d'une clientèle chic. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de proposer à Gabi de me raconter son rapport à la thune. Et là, eh ben, grosse surprise, hein? Parce que cette jeune ébéniste aux yeux pétillants et au joli sourire qui donne le change a en fait ouvert au micro de Thune sa boîte de Pandore, savamment sculptée au gré de ses factures impayées et de ses angoisses de découvert en bois véritable. C'est cash, c'est hard, c'est sincère. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Gabi. Gabi, tu as 30 ans, tu es ébéniste, un métier qui fait rêver pas mal de gens, et tu as un rapport pour le moins compliqué avec l'argent. On va en parler aujourd'hui. Avant ça, je voulais savoir un peu, Gabi, tu viens d'où, t'as grandi où, ils faisaient quoi, tes parents?
J'ai grandi dans le 9e arrondissement, à Paris. Mes parents, ils ont fait plein de trucs. Quand j'étais petite, ils faisaient de la mode, et ils ont tout fait en binôme à chaque fois.
C'était une sorte de power couple?
Ouais. Ouais, en fait. C'est mon père qui drivait un peu le couple et ils ont changé de carrière sans cesse. Et donc, il y a eu la mode, après le cinéma, le théâtre. Et donc là, ils font du théâtre. Mais donc, ils avaient 5 enfants et c'était des prises de risques tout le temps, mais c'était l'aventure, quoi.
Et ils parlaient d'argent? Ou vous parliez d'argent à la maison?
Eh ben, non. Enfin, j'entendais tout le temps « on attend les acédiques ». Mais on parlait pas d'argent et surtout j'ai su après. Enfin, en fait, je le sais. Enfin, maintenant, quand je suis grande, je me rends compte que ça n'allait pas. Ils nous montraient pas que ça allait pas du tout en fait. On vivait dans des apparts dingues, mais on déménageait tout le temps parce qu'en fait, ils trouvaient un appart et après ils payaient pas le loyer et donc ils attendaient de se faire virer pour retrouver un autre appart. Donc en fait, j'ai déménagé, je sais pas. Plein de fois, plusieurs fois dans la même rue ou quoi. Mais on s'en rendait pas compte, en fait. Je sais pas comment ils faisaient pour garder ce stress, quoi. Parce que parfois, vraiment, ils devaient partir et on savait pas où ils... Je pense qu'ils savaient pas la semaine d'après où ils allaient aller, quoi.
Mais tu l'as jamais senti? T'as jamais senti de pesanteur?
Non. Après, plus grande, je l'ai senti. Quand tu rentres de vacances et que t'as un courrier, la porte est défoncée et t'as les huissiers qui te disent que ils vont prendre ça. Mais eux, à chaque fois, c'est tellement appris à l'humour et à la rigolade que moi, je me suis jamais inquiétée, quoi. Et je pense mes sœurs, on s'est jamais inquiétées. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout senti comme ça, quoi. Et en fait, ils vivaient complètement au-dessus de leurs moyens et c'était de la démerde tout le temps, quoi.
Et c'est encore le cas aujourd'hui?
Ouais. Ouais, c'est encore le cas aujourd'hui, même s'ils sont contents parce que là, ils arrivent à payer leur loyer. Mais pour eux, c'est inédit, quoi.
Ça y est, c'est des bourgeois, ils arrivent à payer leur loyer.
C'est ça. Donc, c'était un peu, on vivait dans des supers apparts, mais par contre, dedans, c'était le camping total, quoi. Et ça, je l'ai vu après en regardant des vidéos caméscope où en fait, c'était n'importe quoi, quoi.
Vous partiez en vacances, vous aviez des luxes?
On partait en vacances toujours au même endroit. Mais c'était bien et ça faisait pas, on n'a pas de fric, on part pas en vacances. C'était le lieu où on partait en vacances et c'était tout et c'était sacré, quoi. C'était comme ça. Je sais pas, j'ai jamais l'impression d'avoir manqué de trucs. Alors après, on mangeait un peu de la merde, quoi, mais je sais pas.
T'avais de l'argent de poche ?
Pour m'acheter des bonbons, mais j'en ai jamais demandé non plus. Je savais que je voulais faire un métier créatif ou un truc avec mes mains, en tout cas, ça c'était sûr. Enfin, je voulais pas faire un métier pour gagner de l'argent du tout, je pensais même pas à ça. Ce qui était important, c'était de faire un métier pour que ça me plaise, en fait, quoi. J'ai fait l'histoire de l'art et je me faisais chier et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un truc manuel. Et justement, mes parents, ils ont vraiment ce truc, le goût des objets. On allait tout le temps chez des antiquaires faire des... Je sais pas, j'ai toujours eu plein de meubles.
Ils avaient pas de fric, mais ils avaient des beaux meubles.
Ouais. Mais ils font toujours des ventes aux enchères, des trucs comme ça. Ils se débrouillent tout le temps. Chez moi, il y avait un bio de boucher, quoi. Enfin, c'est des trucs aussi. ils les prennent parce que personne veut les prendre, parce que c'est des trucs énormes, hyper baroques. Enfin.
Et eux, ils font des bonnes affaires, en quelque sorte ?
Petite, je pensais que oui, mais maintenant que je connais le mobilier, je pense que non. parce que je vois que c'est pas des trucs super, quoi. Mais c'est des trucs qui tapent à l'œil, quoi, qui sont atypiques, en fait.
Qui sont kitsch, qui sont marrants.
Ouais.
Et t'as trouvé cette profession, ce métier, ce savoir-faire artisanal,
ouais,
d'ébéniste. Ça fait rêver tellement de gens. Il y a plein de gens qui se disent « Ah tiens, j'aimerais bien arrêter de travailler dans un bureau et peut-être faire, ouais, un métier manuel. »
Eh ben, ouais, bah c'est bien. c'est un super métier, sauf que... Moi, au départ, j'ai fait des études de restauration de mobilier et je trouvais que c'était justement que ça allait être un métier un peu tranquille, quoi, que j'allais être un peu dans une bulle, que justement j'allais écouter des podcasts, des trucs comme ça et être tranquille. Et en fait, je me suis mis à mon compte après l'école et j'ai eu beaucoup de commandes en ébénisterie plutôt et en agencement. Et c'est super dur, quoi. Enfin, et surtout que moi, j'avais aucun apport de base, quoi. Et donc, il y a plein de gens qui font des reconversions et c'est très bien, qui touchent le chômage pendant leur reconversion, qui ont de l'argent de côté, donc ils peuvent s'acheter des machines d'électroportatifs et tout. Et moi, à la base, on l'a fait à deux avec mon ex-copain et on avait que dalle, quoi. Et ça, c'était vraiment dur, en fait.
Commencer ébéniste sans apport, c'est compliqué.
Ah ouais. Bah, on attend d'avoir un chantier pour pouvoir s'acheter du matériel. Donc, c'est-à-dire que les premiers chantiers, bah, on les fait. Nous, on n'avait même pas notre atelier, c'était chez nous. Donc, on a fait nos premières commandes dans le salon. Maintenant, c'est un super bon souvenir, mais c'était n'importe quoi. Et après, on a eu les premières commandes qui nous ont rapporté de l'argent. On a pu acheter des machines, mais en fait... même, quoi. Enfin, c'est... Et puis, il y avait ce truc de légitimité, quoi, de... on est jeune, on doit faire des devis à la hauteur de nos compétences. Et en fait, nous, on faisait des trucs, mais au rabais total, quoi.
Par ignorance, tu penses, ou...
Je pense vraiment par légitimité, parce qu'on sortait de l'école. Et puis, en fait, la peur de pas pouvoir manger le mois d'après, où en fait, on faisait des devis au rabais pour être sûr d'avoir du boulot, pour être sûr d'avoir de l'argent. Mais en fait, c'est un cercle vicieux pas possible, quoi. Enfin, parce qu'après, on a des clients qui vont être plus ou moins des habitués, mais on a commencé à faire les trucs au rabais. Donc,
quand tu dis au rabais, ça veut dire que c'est des devis... qui suppose un temps de travail et un tarif horaire et un investissement, ouais, et personnel et en termes éventuellement d'investissement sur des machines qui te permettent pas de vivre ou très mal, c'est ça ?
Ou encore, on pouvait vivre et maintenant moi, je peux vivre, enfin vivoter si je paye pas l'URSSAF, quoi.
Alors voilà, toi, t'as beaucoup fait de blagues, hein.
En fait, c'est que je fais des factures, je fais des devis et tout avec mon CIRET, mais je déclare pas et je me dis à chaque fois que je vais déclarer. Mais en fait... comme je pars avec de toute façon un déficit que je sais même plus d'où il vient, je peux pas déclarer.
Ça veut dire que t'as peur que si tu te signifies aux services fiscaux, ils te tombent sur l'horable et que tu puisses plus jamais rembourser ?
Bah là, si parfois je fais des apparitions pour des projets où je me dis là il faut, quoi. Bon, quand c'est pas des particuliers et des grosses boîtes ou quoi, je me dis bon bah là je dois déclarer, c'est pas possible, quoi.
Ah, de temps en temps tu déclares quand même ?
Ouais. Je déclare, mais Voilà, j'ai déclaré et en fait, j'ai pas la trésorerie de pouvoir payer. Donc, je vais payer quand je pourrai.
Et ça suppose quoi, des négociations avec l'URSSAF du coup ?
Bah, pour l'instant, ils me disent rien. Mais il y a un moment, ouais, je pense, quoi. Mais j'ai peur, en fait, un jour, je me dis, je vais avoir un courrier de l'URSSAF qui va me dire, bah, je sais pas, vous nous devez, je sais pas combien. Enfin, en fait, ce qui me fait flipper, c'est que un de mes clients ait un contrôle fiscal. Ça risque tellement d'arriver, quoi.
Tu gagnes combien à peu près par mois ?
Je sais pas. Vraiment, je sais pas, parce qu'en fait, parfois, je vais faire des banquettes, le devis va être à, je sais pas, on va dire 6 000 euros.
Ça paraît beaucoup comme ça, 6 000 euros. On se dit, waouh, la personne, le client qui a 6 000 balles à claquer dans des banquettes, il est quand même bien installé. Il sera encore mieux installé avec ses banquettes.
Donc 6 000 euros, il y a, on va dire, je sais pas, 3 000 euros de bois, matériaux et tout ça. Donc moi, je suis censée gagner 3 000 euros. Souvent, là, je suis seule, donc faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour faire ce chantier-là. Je peux pas le faire seule, donc quelqu'un que je vais payer. Et en fait, en soi, si je paye quelqu'un, je pourrais me faire, peut-être, et en déclarant, peut-être 1 800 euros, un truc comme ça, quoi. Mais en fait, je suis tellement à découvert et je dois tellement de l'argent à mille et une choses qu'en fait, mais là, je regardais hier sur mon compte, j'ai eu plein de, des virements de 2 000, 3 000 euros, mais je les vois pas passer, quoi. Ça couvre des trucs tout le temps.
T'es toujours à découvert ?
Ouais,
ou souvent,
tout le temps. Tout le temps, et vraiment, si découvert n'existait pas, je pourrais pas vivre, quoi.
Est-ce que tu claques beaucoup d'argent pour vivre ?
Eh ben, je pense pas, mais je pense que je vis au-dessus de mes moyens. Enfin, je devrais ne rien faire, quoi. Enfin, je devrais manger des pâtes et c'est tout, quoi. Faudrait que je me pose et que je sache exactement par mois... Là, si quelqu'un me donnait 5 000 euros, je pense que je pourrais repartir de zéro et être un peu cool. Moi, c'est mon rêve, hein. Ça serait de pouvoir repartir de zéro et d'être dans les clous, en fait. De pouvoir pas être en sous-location tout le temps.
J'allais te demander comment tu habites, comment tu vis en termes de logement.
Eh ben, soit je suis en sous-location... Quand je vis seule, je me débrouille, quoi. Soit là, je vis avec quelqu'un. Donc, bien sûr, le bail est à son nom. Moi, j'ai jamais eu de bail à mon nom, quoi. Enfin, c'est impossible, quoi.
Alors que t'as 30 ans.
Ouais. Et comme je déclare pas ce que je gagne, j'ai pas de fiche d'imposition.
Mais tu déclares tes impôts, quand même.
Mais pas tant, en fait. Non,
tu les déclares pas, carrément ?
Ben non, mais je crois que...
Tu les payes pas, c'est pas la même chose. Ou tu les...
Non, mais
ou
en
tu
fait,
déclares très peu.
J'étais pas... Comme je déclarais pas à l'URSSAF, enfin très peu, j'étais pas imposable. Voilà. Là, j'ai l'impression que je suis pas imposable non plus.
Mais du coup, tu les déclares pas ?
Si, il faudrait. Mais là, je suis dans une... Je sais pas si une phobie administrative... Alors qu'à la base, je pense pas être dans une phobie administrative parce que quand on travaillait à deux, c'était moi qui gérais tout ça et je gérais, je trouve, pas trop mal. Je sentais bien qu'on était dans la merde, mais j'avais la tête sur les épaules, quoi. Et là, c'est trop, quoi. Parce que comme maintenant, je fais seule ce qu'on faisait à deux, je récupère un peu tout, quoi. Enfin...
Trop de boulot ?
Ouais, tout. Tout ce qu'on faisait à deux, je le fais seule, quoi.
Tu travailles énormément ?
Alors je travaillais énormément et là je suis arrivée à un trop plein de où je peux plus, quoi.
Burnout.
Ouais, et je me suis dit pourquoi je fais un burnout alors que je gagne même pas assez d'argent pour vivre cool. Enfin, c'est ridicule en fait, quoi. Je me tapais des 8h 20h minimum et en plus c'est physique et c'était trop, quoi. Et je me suis dit je vois pas. Mais après, voilà, un burn-out, quand t'es auto-entrepreneur, c'est infâme, quoi.
Ouais, parce que t'es tout seul.
Je suis tout seul et j'ai pas de... Je sais pas, je toucherai jamais, j'ai pas de chômage, j'aurai pas de... Je sais rien, de rupture conventionnelle, de trucs comme ça. Enfin, moi, j'envie les gens au chômage, quoi, vraiment.
Ça doit te causer un sacré stress, non ?
Ouais, je rêve que de ça, la nuit. Je pense à ça tout le temps, quoi. Parfois, je me réveille, je sais pas si les choses se sont passées ou pas, quoi. C'est vraiment des trucs nuls, quoi. C'est genre, je dois envoyer un SMS à telle personne, je dois payer tel fournisseur de bois, enfin...
Ça te hante?
Ouais, complètement. Donc c'est censé être un métier passion, comme on dit, mais ouais, moi, maintenant, je m'assois dans un resto sur un fauteuil en bois, ça me stresse, quoi.
Parce que tu penses au fauteuil en bois que tu dois construire? Et parce que tu penses à l'addition, peut-être aussi?
Ouais, bah ouais, bien sûr. Et comme en plus, j'arrive pas à dire. Et ça, je pense que c'est un truc de mes parents. J'arrive pas à dire que j'ai pas d'argent, en fait, quoi. J'arrive pas à assumer ce truc du tout, quoi. C'est impossible.
Tu le dis pas aux gens?
Non. Je le dis pas aux gens. Enfin. Après, j'ai tellement l'impression que ça se voit.
Mais ça se voit?
Ouais, j'ai l'impression que ça se voit, quoi.
À quoi?
Je sais pas, physiquement, un truc, j'ai l'impression que ça se voit. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit. Et donc, et puis là, j'arrive à un moment, on a 30 ans, donc moi, j'ai plein de potes qui achètent des maisons, des trucs comme ça, qui se demandent comment ils vont emprunter et tout ça. Enfin, bon, bref. Et ça me met hyper en colère, quoi.
Pourquoi en colère?
En fait, je pense que comme je pense que ça se voit que j'ai pas de fric... Et je me dis, mais comment elle peut me dire qu'elle va acheter telle maison avec son mec alors que moi j'ai pas de fric? Mais en fait, peut-être qu'elle voit pas que j'ai pas de fric.
T'as l'impression que les gens devraient être plus délicats par rapport à ta situation?
Mais je pense qu'en fait, ils savent pas. Ils se rendent pas compte parce que je bois toujours des bières avec eux, que je vais au resto, que je me démerde toujours pour faire les trucs.
Parfois, tu suis alors que t'aurais pas les moyens, quoi.
Ah ouais, non, bah tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais, donc oui, donc en même temps, je peux pas leur en vouloir, en fait. Enfin, c'est ces mêmes personnes qui vont me dire, mais je comprends pas pourquoi tu t'embêtes à louer un atelier, pourquoi tu l'achètes pas. Enfin, mais c'est dingue. Pourquoi j'ai pas d'utilitaire? Donc là, j'utilise ma 206 pour livrer des meubles sur les galeries de ma voiture. C'est que des plans comme ça, en fait. C'est que de la galère tout le temps, quoi.
Ça prend du temps, en plus, la galère.
Ouais.
Et de l'énergie.
Ouais, c'est ça. Mais bon, et en même temps, si demain, je me dis, bon, bah, je bosse dans un atelier, je suis salariée, pour moi, c'est la défaite totale. Je me dis, je veux y arriver toute seule, quoi.
Il y aurait une compromission à aller dans une boîte, à aller bosser pour quelqu'un d'autre?
Ouais, même si j'y pense de plus en plus. Déjà, je sais pas si j'y arriverai, en fait. Parce que j'ai l'impression que je sais bien travailler quand je suis toute seule. Je peux me planter. J'ai du mal à avoir quelqu'un derrière moi. Je devrais peut-être me faire violence et puis bosser dans un atelier, voilà, faire mes heures et puis je serais plus cool, quoi. Mais je sais pas si je me sentirais plus libre, j'aurais plus d'argent. Je sais pas.
Tu dis qu'avec 5000 balles, tu serais refaite et tu pourrais prendre un nouveau départ. T'as déjà essayé de solliciter un emprunt?
Ah ouais, non, mais c'est impossible, quoi. Bah, comme je suis à découvert tout le temps, non. Et moi, j'ai même peur d'appeler les banquiers pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, elle fait n'importe quoi. Donc, en fait...
Quoi, on va la mettre en prison?
Oui, mais non, mais je... Alors, sinon, j'ai découvert un truc... que j'aurais jamais dû découvrir. Bien sûr, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir. C'est les prêts Lydia. C'est un truc, mais c'est un gros traquenard, ce truc. C'est que tu peux faire des prêts vraiment en gagnant rien, quoi. C'est-à-dire que c'est des mini-prêts, mais des mini-prêts qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros, que tu rembourses en 3 mois. Mais alors ça, moi, j'en fais tout le temps, quoi.
Ça te coûte cher?
Bah ouais, en fait, parce que ça fait que là, par exemple, je dois encore rembourser 160 euros pendant 3 mois. Donc j'ai toujours ça à rembourser en plus, parce que j'en fais tout le temps en cours, parce que j'ai toujours tout le temps besoin d'argent.
Ça plus les frais d'opération, tu dois te taper des frais bancaires de malade.
Ouais, mais ça je regarde même pas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr que je me tape des trucs de dingue.
Socialement, ça a pas l'air de trop te nuire. Tu suis, tes potes sont pas au courant en réalité de ce que tu dis.
Je pense qu'ils s'en rendent pas trop compte non plus. Et puis comme mes parents, ils ont un peu ce truc qui m'ont... Moi j'ai toujours eu l'impression que voilà, l'argent ça va, ça vient, parce qu'eux ils faisaient comme ça, on peut toujours trouver de l'argent, et moi je suis un peu née en pensant ça, quoi. On peut toujours se débrouiller à à avoir un billet, quoi, à se débrouiller, en fait.
Mais là, j'ai l'impression que t'es un peu au bout de cette logique.
Ouais.
T'es un peu arrivé à saturation. De ce
ouais.
côté, on va aller chercher le billet qui va renflouer le
ouais,
découvert
d'avant.
Ouais, là,
j'en peux plus. Et là, et en plus, ouais, j'en peux plus. Et je me dis, je sais pas si j'ai envie, à 60 ans, d'être encore comme ça avec l'argent, quoi.
Tes parents, ils sont encore comme ça avec
ouais.
l'argent.
Mais je crois que ça va, mais ouais, ils sont comme ça. Et en même temps, c'est leur mode de vie, en fait. Ils ont toujours fonctionné comme ça, et peut-être ça les rend heureux, en fait, je pense. Mais moi, j'ai pas... Ouais, je me rends compte que ça me fatigue beaucoup. Et même là, et même en couple, quoi, c'est un peu... C'est un sujet. Moi, j'ai l'impression d'être un super gros boulet, quoi.
C'est celle qui a jamais le fric.
Ouais, je sais qu'il y a jamais de fric, mais qui veut pas le dire... Donc, je vais quand même vouloir payer autant de trucs, faire des restos, des trucs comme ça. Et alors, quand partir en vacances, alors que réellement, je peux pas, quoi, en fait. Et j'arrive pas à assumer ce truc, quoi. J'ai trop honte, en fait, quoi. J'arrive pas. Même si, là, la personne avec qui je suis le sait et m'aide beaucoup.
Y compris financièrement ?
Ouais, complètement, ouais. Mais c'est quand même c'est un gros sujet, quoi. Parce que moi, dès qu'on va en parler, je vais m'énerver, je vais me sentir mal, je vais avoir honte. J'ai l'impression d'être la petite fille aux allumettes, quoi, tout le temps. J'ai l'impression d'être bordel, quoi, de m'être mal débrouillée, quoi. Et en même temps, d'un côté, je suis contente de faire ce métier. Je suis fière de faire ça seule et de continuer, en fait, quoi. Mais bon, jusqu'à quel point, en fait, je vais pouvoir ?
Si tu pouvais, si t'avais de l'argent, mettre le nez dedans, remplir les factures, tu crois que tu pourrais changer ?
Bah, en tout cas, j'aimerais bien. Je pourrais m'acheter un utilitaire, j'aurais du temps pour créer des meubles qui me plaisent et pas faire des dressings pour des clients, des trucs que je trouve moches, en fait, quoi, aussi. C'est ça, quoi, je fais des trucs qui... censé être un métier passion, tout ça, mais en fait, je fais des trucs qui me plaisent pas, au final.
T'arrives à payer ton loyer ? T'arrives à payer tes fournisseurs ?
Les fournisseurs de bois, ça, pour le coup, je les paye toujours. Parce que je les paye toujours et toujours à temps, parce que si eux, ils me filent entre les doigts, c'est foutu, en fait. Enfin, là...
Clé sous la porte.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Ça, je paye à chaque fois. Le loyer, quand j'habitais seule, à chaque fois, je le payais. Et là, comme on est en couple... Je le paye, mais je fais des trucs insensés, quoi. Je le paye, et le lendemain, ma copine va me prêter 450 €, c'est-à-dire le prix du loyer, pour que je rembourse un truc. Enfin,
oui, donc tu le payes, et
je le paye symboliquement.
Elle te redonne la même somme
c'est
pour
ça.
Te sortir de,
ouais.
D'un problème financier
ouais.
que tu avais déjà avant.
Ouais.
Donc c'est comme si tu n'avais rien payé, quoi.
C'est ça. Après, je fais toujours des comptes aux personnes à qui je dois l'argent. Pour le coup, ça, c'est un truc. Je fais toujours des comptes, des notes de mon téléphone. Je sais exactement ce que je dois leur rembourser et ce que j'ai pris ou quoi.
Ah, parce que ta copine, elle te prête de l'argent.
Ouais, parfois.
Elle te donne pas toujours de l'argent. Elle peut t'en
prêter. Elle dit qu'elle me donne et elle voudrait me donner, mais je veux pas qu'elle me donne. Donc je note tout et je le rends. Après, elle paye plus de choses dans la vie, donc en soi...
Tu sais combien tu lui dois, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle ? À peu près. C'est marqué quelque part, en tout cas.
Non, bah, je sais que parfois, elle m'a déjà donné 600 balles par-ci, par-là, ce qui est quand même pas mal.
C'est pas mal, 600 balles.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Et, ouais. Je sais pas, entre ce qu'elle paye plus et tout, en fait, ça va très vite, quoi.
Vous allez partir en vacances ? Tu vas partir en vacances cet été ?
Ouais, moi je trouve que la bonne solution c'est d'aller marcher. Pour le coup, j'arrive, j'ai pas des goûts de luxe du tout, quoi. Pour moi, les vacances c'est de marcher et puis voilà, je dépense pas de fric et puis c'est bon, quoi.
Est-ce que c'est moins angoissant les vacances ? Parce que justement, tout le rapport au travail s'arrête et le rapport au fric éventuellement peut faire une petite pause ?
Ouais. Bah, ça dépend des vacances. Justement, des vacances où, j'en sais rien, on va aller en Italie et on va se taper des restos tout le temps et tout, ça va m'angoisser quand même. En fait, je peux pas suivre et donc, enfin, à un moment, mes cartes vont être bloquées, je vais me sentir con, enfin, et voilà, et les vacances sont foutues, quoi. Faut que je fasse simple, quoi.
Si on faisait de la psy-tune à la petite semaine, est-ce que tu crois que t'as peut-être tendance à confondre...
ta propre valeur et la valeur marchande de ce que tu offres.
Ah ouais, c'est sûr. En plus, maintenant, j'ai un truc bizarre avec l'argent où je... Pour moi, je j'arrive plus à savoir ce que ça vaut. Enfin, je sais pas comment dire, c'est...
T'arrives pas à savoir si c'est trop cher, pas assez
ouais,
cher quand t'achètes un truc.
Je suis paumée, quoi. Et alors qu'avant, le fait d'être deux, bon, bah, ça temporisait, en fait, de faire un devis. Ça pouvait nous prendre un gros devis une après-midi. Mais bon, il y avait une discussion. Là, moi, je suis... Ouais, il y a des trucs pour lesquels je trouve ça bien d'être à deux, quoi. Parce que justement, c'est un métier tellement... Il y a tellement d'étapes, quoi, entre tout le relationnel avec le client, faire les devis, après faire les plans, faire le travail d'atelier, la livraison, la pause. C'est trop seul, quoi. Et je connais plein d'ébénistes qui, d'ailleurs, arrêtent. Il y en a plein qui arrêtent parce que c'est trop, quoi.
Ah bah oui, c'est une bonne question, ça. Les autres, alors ?
En tout cas, j'en connais plusieurs qui... où c'est trop dur, quoi. Physiquement, c'est trop dur. Et après, il y a des gens avec qui j'ai fait mes études, pour qui ça marche très bien. Souvent, ils sont plusieurs à bosser ensemble. Ils sont pas seuls. J'en connais, ça marche très bien, parce qu'ils ont des sous de base, quand même.
Toi, tu relis vraiment, quand même, ce truc au patrimoine de départ,
ah ouais,
quoi.
Vraiment. Et je le vois, parce que les gens en reconversion, souvent, quand même, ils ont un patrimoine de départ. Et en fait, ils sont tellement plus cool, quoi. Moi, je le vois dans mon atelier, il y a plein de gens en reconversion, mais ça a l'air génial, quoi. Enfin, ils font leur truc, tranquille, ils touchent le chômage, ou alors ils ont des sous à côté et tout, mais c'est la belle vie, quoi.
Tes clients, c'est des particuliers ?
Et ça peut être aussi des entreprises. Enfin, je sais pas, un bar qui ouvre peut faire appel à moi.
T'as l'impression que t'es bonne en négociation ?
Ah non, c'est... Non, pas du tout. Déjà, moi, je comprends pas que les gens négocient, en fait. Et j'ai pas cet esprit-là, quoi, de dire, de on dit un prix, on essaye de baisser. Enfin, je comprends pas en fait qu'on fasse ça, quoi.
Et quand quelqu'un essaie de baisser, tu réagis comment ?
Bah, je baisse, bien sûr. Sauf parfois, il y a vraiment des devis que déjà j'ai pas fait cher et ils veulent rebaisser. Et là, si je rebaisse, mais en fait, c'est un cadeau que je fais, en fait, parce qu'il y a les matériaux dedans et tout. Donc, non, je suis très mauvaise en négociation, quoi. Et après, donc, je me sens mal et donc je travaille et je sais que le devis est pas bien, donc j'ai pas cœur à l'ouvrage. Je vais être en colère. Enfin.
Et quand tu parles avec d'autres ébénistes, il y en a qui arrivent justement à mieux se débrouiller avec cet aspect commercial du travail. Vous en parlez déjà ou pas ?
Ouais, on en parle. J'en connais qui sont dans les clous. Mais qui bosse, mais qui a un truc de dingue. Franchement, c'est fou, quoi. Mais ils sont dans les clous, ils arrivent à se verser un salaire et tout. Ça va. J'en connais d'autres qui sont plus... qui vivotent plus, mais qui se débrouillent quand même. Ça va, mais en tout cas, on en parle. Et en tout cas, c'est moi qui galère le plus, quoi. Ça, c'est sûr que... ouais, c'est sûr que moi, ça va pas, quoi.
Tes clients, c'est plutôt des gens, j'imagine, un peu fortunés, parce que ouais. Quand on fait appel à un ébéniste, c'est qu'on a un budget pour des dépenses qui sont de l'ordre du superflu, du luxe, ou en tout cas du plaisir.
Ouais, c'est des gens qui ont des sous. Pour le coup, c'est pas forcément parce qu'ils ont des sous qu'ils vont pas marchander. Au contraire, en fait, c'est des gens qui sont habitués à marchander pour tout, quoi. Je pense que c'est bizarre, mais en faisant des devis pas très élevés, je me dis que si jamais je foire ce que je fais, bah comme j'aurais fait le devis pas très cher, ça passe.
Ah ouais, c'est vraiment un problème de confiance en toi, en fait.
Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait, un peu ma justification, quoi. Je me dis, bon, bah... Voilà, j'ai... Et aussi, je me dis, moi, si jamais je fais un truc où les finitions sont pas nickel, comme j'ai fait un devis pas très cher... Je me dis, ils n'ont pas le droit, en fait, de demander plus.
Et ça arrive qu'ils le fassent quand même ?
Et en fait, si, ils demandent plus, parce qu'en fait, et ça, pour le coup, c'est pas de leur faute, souvent, les gens savent pas, en fait, le prix d'un meuble en ébénisterie. On sait pas, en fait, on paye des trucs Ikea, des trucs comme ça, et on sait pas, en fait, vraiment combien vaut un meuble, quoi. Donc c'est vrai que, souvent, quand on reçoit un devis, bon, bah, ça paraît cher, en fait. Et ça, je peux pas leur en vouloir.
Est-ce que tu penses que tu es une bonne ébéniste ?
Je pense que je suis une bonne restauratrice de mobilier, mais je suis pas une bonne ébéniste. Je m'en rends compte que ça... Mais peut-être c'est le problème est là, hein, c'est que Je suis pas une geek du tout de ce métier, parce qu'il y a vraiment des gros geeks, quoi. Il y a vraiment des gars, enfin c'est souvent plus des gars d'ailleurs, qui vont être à fond d'en faire des super assemblages. Ouais. Ouais, qui vont être des geeks, en fait.
Tout le monde bosse beaucoup, c'est un métier où il y a une énorme concurrence, en réalité.
Ouais. Ouais, moi je pensais pas, parce qu'on se dit, on est ébéniste. Moi je suis rentrée à l'école, je me suis dit, ah, ça va être mignon, quoi, on va être tranquille, on va écouter la radio et tout. Et en fait, non, ça se tire vachement dans les pattes. Vraiment, de qui va être le plus fort techniquement, qui va être. Puis il y a un truc, bon, ça, c'est mon truc à moi, il y a un truc chauvin aussi, moi je trouve, donc, qui me déplaît beaucoup dans l'ébénisterie, mais de savoir-faire français. Alors que maintenant, en fait, pour faire un meuble comme ça, je sais pas, sculpté ou avec des beaux assemblages, des queues d'aronde et tout ça, mais en fait, vraiment, on en fait rarement, quoi, parce que ça coûte super cher, quoi.
Plus personne n'a les moyens de se payer ça.
Ou alors, vraiment, on tape dans le luxe, et donc là, il y a vraiment des ébénistes qui font ça, et on fait appel à eux. Mais au final, les meubles, bon, bah, on va faire un devis pour un super beau meuble, les clients vont trouver ça trop cher, donc au final on va le faire en panneaux plaqués. On va prendre le plus bas de gamme des panneaux plaqués, parce qu'en plus le prix du bois a augmenté, donc on va faire ça en aggloméré plaqué chêne, donc vraiment pour faire la blague. Et bah voilà quoi.
T'as déjà pensé à demander de l'argent à tes parents?
Non, enfin si, je l'ai déjà fait, mais 100 balles quoi, enfin je... Non, parce que mes parents, je pense qu'ils diront oui et qu'ils pourront pas le faire. Parce qu'ils galèrent aussi et j'ai pas envie de les mettre mal, ou alors mon père, je pense qu'il ferait des pieds et des mains pour trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il me dit ça à chaque fois. Mon père me dit, Gabi, si t'as besoin d'argent, même 150 000 euros, je te les file demain d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait peur quand même.
C'est énorme.
Oui,
par
c'est
rapport
énorme.
À la nature de tes problèmes.
C'est ça. Mais voilà, c'est presque mignon en fait, quoi. C'est de la blague, quoi.
C'est du rêve.
Ouais, un peu. Et donc non, je demande pas à mes parents. Je demande à une sœur qui elle a réussi. Et justement là, j'y pense et je lui dois 500 euros.
Tiens, à propos, tu n'empruntes pas trop aux potes?
Ah non, les amis, jamais. Non.
Et tu demandes pas des avances?
Quand je fais
à
des
clients?
Ouais. Si, bah pour le coup, il y a toujours des avances, des acomptes.
Bah pour le matériel déjà.
Ouais, pour le matériel, mais donc ça aussi. Enfin, en fait, moi, je vis sur les acomptes, quoi. Et là, on vient de me faire un acompte, bah en fait, il a recouvert mon découvert et je suis censée acheter le bois, mais. Bah, je vais devoir retrouver de l'argent pour acheter ce bois.
Donc tu vas devoir prendre un autre contrat.
Ouais.
Pour acheter le bois pour le précédent.
Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je suis obligée... Ouais, je peux pas m'arrêter, quoi. Et donc, tout le monde me dit, mais prends des vacances et tout. Mais en fait, moi, si je prends des vacances, ben, je peux pas vivre.
Tu sais combien d'argent il te faut pour vivre par mois?
Bah alors, mon loyer... mes deux loyers, c'est 800 euros en tout. Après, j'ai l'assurance de ma voiture, mais pareil, là, que je paye pas, ce qui est grave. Si j'ai 1500 euros pour moi, ça va. Mais voilà, je m'en rends pas compte, parce que dans ces 1500 euros, c'est-à-dire qu'il faut que je déclare aussi l'URSSAF.
Le fameux.
Ouais, donc peut-être si j'ai 2000 euros. Si j'ai 2000 euros et que je suis pas à découvert, que j'ai tout remboursé, que je suis OK et tout ça, peut-être. Ouais, ça serait... Ouais, si j'ai 2000 euros, ça serait trop bien.
Ça te paraît possible?
Ça me paraît possible si je suis... Si là, je suis bien, quoi. Si j'arrive à plus être à découvert, si je dois plus d'argent à l'URSSAF, si je dois plus d'argent à la CAF, quand même. Personne ne doit de l'argent à la CAF, normalement.
Un trop perçu, c'est ça?
Ouais. Des trucs comme ça. Donc ça me paraît possible, mais là je sais pas. J'essaie de trouver j'essaie de faire des formations. J'aimerais former des gens à la restauration de meubles, ou même que ça soit genre leur loisir, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui on m'a déjà demandé d'essayer de faire des cours pour des gens qui veulent juste s'initier à la restauration de mobilier, qui ont un meuble cassé chez eux, qui veulent le réparer. J'aimerais essayer de faire ça. et à voir si ça fonctionne, quoi.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.